du Louvre jusqu'au 4 janvier 2010. Les plus grands peintres de Venise au XVIe siècle, l'histoire de leur rivalité, à découvrir à travers la réunion de 86 chefs-d'œuvre. Ouverture supplémentaire jusqu'à 20h le samedi. L'exposition Titien-Tintoret Véronèse, Rivalité à Venise, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter,
la différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Bonjour, je téléphonais juste parce que je viens de me lever, je travaille de nuit, il est 14h le 19. Je viens d'apprendre que Chris n'était plus parmi nous, c'est une bien triste nouvelle, donc je me joins à tout le monde, à tout France Inter et à sa famille pour dire que c'était une fille qui avait l'air très sympa et puis elle avait une voix très joyeuse à la radio, donc c'est bien triste. C'est Françoise du Val d'Oise. Au revoir.
Mais écoutez, je viens d'apprendre la mort de Chris et c'est vraiment une très 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 grande tristesse. Je vis avec France Inter depuis 40 ans et vraiment là, je savais qu'elle était malade, elle ne cachait pas, elle n'avait pas caché sa maladie. Et j'ai une très très grande pensée pour Chris. Salut et continuez, c'est génial ce que vous faites. Au revoir.
Bonjour chers amis de là-bas si j'y suis, c'est triste, le départ de Chris. Voilà, je voulais témoigner cette tristesse. C'est vrai que lorsqu'on est un peu seul, comme l'avait dit Chris un jour, pour beaucoup d'auditeurs, je pense, et auditrices, France Inter est un peu notre famille, et quand il y a un membre de la famille qui part, c'est toujours un peu triste, même très triste. Voilà, à bientôt.
Bien triste nouvelle, aujourd'hui, je viens d'apprendre, au flash de midi sur Inter, que Chris était décédé, voilà. C'est vraiment une seule nouvelle, tous les week-ends, j'ai essayé de l'entendre dans son Campbell, s'il était là ou s'il n'était pas là. Et malheureusement, elle n'était pas là depuis bien longtemps et elle ne sera plus là. Et Daniel, j'aimerais qu'un jour, un de ces quatre, si tu pouvais faire une émission pour lui rendre hommage, parce que je crois qu'elle a beaucoup apporté à France Inter, voilà. Alors j'aimerais bien un jour que tu fasses une émission spéciale sur Chris. Ce serait chouette pour tous ceux qui l'aimaient et qui l'écoutaient.
Bonjour Daniel. Je viens d'apprendre avec vraiment une réelle émotion la mort de Chris. Je l'écoutais avec un grand plaisir et j'écoutais surtout ses textes très poétiques. Voilà, je voudrais dire mon amitié à tous ses proches, ma sympathie plutôt. Au revoir.
À vous les Nantais. Au prochain repère, on parlera de l'identité des athées. Repère que nous avons nommé, un peu pompeusement, je vous l'accorde, immanence et transcendance chez les athées. L'immanence, c'est l'ici et maintenant, le concret, le rationnel, le réfléchi, cause et conséquence, l'appréhendable. La transcendance, c'est ce qui tient de la foi, du spirituel, de croyance en des mondes parallèles, en l'au-delà, en des forces qu'on ne peut appréhender. Alors, où se placent les athées dans tout ça? Quelles sont leurs valeurs, leur morale, leur philosophie? Comment s'identifient-ils? Se définissent-ils seulement par leur non-croyance en Dieu? Voilà. Ça fait un paquet de questions et ça va nous occuper toute la soirée de vendredi prochain, 20 novembre, à partir de 19h19, au Méliès. À vendredi.
Oui, bonjour. Je viens de lire dans le Canard enchaîné de ce mercredi que l'Assemblée nationale a confirmé l'achat et l'aménagement d'un avion A330 réservé au seul voyage présidentiel. Le futur Air Sarko coûtera, si tout va bien, 185 millions d'euros. Dans ce même budget, il est prévu également, notamment, la suppression de 1150 postes de soignants, dont 150 médecins à l'assistance publique.
Salut Daniel, c'est Alain Denis. Écoute, mille fois merci pour ces émissions sur les personnes âgées, sur les maisons de retraite, sur les personnes qui arrivent à ne pas passer par cet effroyable circuit. Bon, je savais que c'était le roi, mais pas à ce niveau-là. Écoute, merci mille fois. C'est en même temps, ça nous aide. Enfin, moi, ça m'a aidé à regarder. À réviser mes propres positions sur la question qui était déjà dans le sens que tu évoques, mais qui le sent encore plus. Vraiment, merci. Ciao.
Bonjour, petit répondeur, c'est Isabelle d'Albi. Juste une petite info par rapport aux maisons de retraite. J'en connais une qui est ravissante. Elle est située, la maison de retraite, hein, entre un funérarium et un cimetière. Les personnes âgées ont vu d'un côté sur le funérarium et le défilé des familles éplorées, et de l'autre côté un joli petit cimetière. Et tout ça, c'est à Carmaux, c'est ravissant.
Je réagis à l'émission d'hier sur les vieux. Bien qu'étant un vieux en devenir, j'ai 40 ans, j'ai été hospitalisé cet été et j'ai par la suite été dans un centre de rééducation fonctionnelle. Étant journaliste freelance, j'ai écrit une petite bafouille en sortant, je vous la lis. Dans le hall du CRF, en face de l'entrée, une grande fresque vous accueille, on la remarque rarement en arrivant. Cette fresque représente de façon stylisée le parcours d'un malade en fauteuil. Grâce aux soins et à sa volonté, il arrive à l'autonomie. Le parcours est jalonné de mots, patience, bien-être, confiance, volonté. Les objectifs de la maison, affichés dans le hall, c'est sûr, on est bien dans le privé. Et regardez de plus près, non seulement la clinique est privée, mais elle est cotée en bourse et fait même partie du CAC 40. L'entreprise leader européen de la prise en charge globale de la dépendance affiche au second trimestre 2009 plus 11% de son chiffre d'affaires. On se demande grâce à qui? Plus de malades, ou des malades qui restent plus longtemps, qui fuient les établissements publics? Tout cela nous interroge forcément quand on voit ce que le capital a fait aux travailleurs. Entreprise qui délocalise, destruction massive d'emplois, employés sous pression qui se jettent par les fenêtres, on a en droit de se demander quel sera l'avenir des soins dans le privé. Fera-t-on venir le personnel soignant des pays de l'Est? Ou alors si les actionnaires réclament encore plus de profits, faudra-t-il carrément délocaliser les accidentés de la route? Si tout dans l'hélico, hop, en Roumanie. Plus sérieusement, il y a fort à craindre qu'on rognera encore plus sur les coûts, toujours moins de personnel. Les infirmiers, des kinés qui travaillent toujours plus pour gagner moins. Le week-end, le personnel soignant se fera rare, les pansements seront changés tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. On mettra des couches à ceux qui sonnent sans arrêt pour aller aux toilettes. Il faudra aussi veiller à ce que le client rentabilise son passage en clinique. Pour un genou pété, ce sera 3 mois en hôpital, pension complète, balnéo, sport, kiné, diététicienne et psy, hop, le package total. Mais à force de parler d'argent, on oublierait presque que le CRS, c'est d'abord des hommes et des femmes, le personnel et aussi les autres, la horde de ceux qui n'ont pas eu de bol, accident de la route, travail, de loisirs, les AVC, j'en passe et des pires. Contrairement au monde de la finance, le monde des hommes n'est ni dans le rouge ni dans le vert, il est à l'orange.
Au pays des droits du capital, il y a 2 endroits où nous devrions jamais mettre nos baskets et nos souliers. Ce sont les prisons et les maisons de retraite. J'ai travaillé durant 1 année dans les ambulances entre Paris et mon département à cette époque-là. J'ai vu l'horreur absolue. Je n'avais jamais vu de personnes âgées autour de moi, dans ma famille. Et là, j'ai vu ce qu'on ne peut pas décrire, il n'y aurait pas assez des 2 minutes. Voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice de tant de témoignages terribles. Puis envie d'écouter, moi, là. J'arrête et je remercie Daniel Mermet, son équipe.
Bonjour, je suis obligée d'intervenir un petit peu parce que depuis 2-3 jours j'entends des trucs sur les maisons de retraite. Je vous parle de mon cas exclusivement. Hein. Maman était dans une maison de retraite, je vais la nommer, la MAPA de Chamonix. Elle sentait la lavande. Les repas étaient très bons puisque je les goûtais le soir. Je lui donnais son repas et je goûtais les repas. Il y avait une ambiance gentille, la télévision avec l'accordéon, toujours l'anniversaire, toujours un accordéoniste, un peu d'animation, et surtout la propreté. Maman sentait la lavande. Mes amis me l'ont dit, ma famille me l'a dit. Je suis obligée de revenir un peu sur ces maisons de retraite. Et pourquoi je veux aller, moi, en maison de retraite? Parce que j'ai eu l'expérience de maman. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir.
Merci pour tous ces messages. Vous l'avez entendu au début de ce paquet de messages sur le répondeur de la base. Si j'y suis, beaucoup de messages arrivent dans le répondeur en hommage à Chris, dont la mort a été annoncée en fin de matinée. Radio France et France Inter, vous en doutez, sont secouées, profondément secouées. C'est un coup trop, même si on l'avait vu venir, trop intime, trop privé pour en parler comme il le faudrait et comme il faudra. Mais j'espère que nos camarades de l'émission de Chris, du dimanche, repasseront l'émission superbe la dernière fois qu'elle est apparue sur l'antenne. C'était le 21 juin dernier, elle a tenu des propos absolument magnifiques. Et elle a vraiment, on peut dire qu'elle fait partie de ces gens dont la vie s'éclaire par la fin. Merci donc pour ces messages sur les maisons sur les maisons de retraite. Aujourd'hui, on va parler de Chomsky. Chomsky et compagnie. Vous savez que c'est un film que nous avons produit avec les Mutins de Pangée, avec le CNC, avec France Inter. Et ce film, eh ben, ça a été grâce à vous, amis auditeurs. C'est une journée un peu familiale, comme ça, grâce à vous. Ça a été un succès. Ça a été un succès, d'abord à cause de vos souscriptions, et puis ensuite, le film est sorti en salle, vous vous souvenez, l'an passé, au mois de novembre, et ça a été un succès. 55 000 entrées en salle. Puis, des débats, très nombreux débats à travers le pays, plus de 200 débats, 220 débats, on s'est beaucoup déplacé pour discuter à la suite de ce film avec les SMG, les auditeurs, les amis, les spectateurs. Et beaucoup de questions sont revenues auxquelles nous n'étions pas en mesure de donner des réponses. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question? Et qu'est-ce que Chomsky pense de ci? Et qu'est-ce que Chomsky pense de ça? Etc. Alors on a mis toutes ces questions dans un grand sac et en passant par Boston en avril dernier, donc 2 ans après, on est retourné voir Noam Chomsky et on lui a posé avec Give un certain nombre des questions, donc émanant du public, maintenant des auditeurs. Et ça donne lieu à un second film, un second document sur, donc, nombre de questions. Les réponses sont, disons, plus profondes, plus en longueur que dans le premier film. Et tout ça, ces deux films font l'objet d'un DVD qui sort ces jours-ci. Chomsky et compagnie, donc le film, et Chomsky et le pouvoir, deuxième partie. Voilà, vous pouvez trouver ce DVD sur le site des Mutins, qui sont la maison de production de ce film. Et aujourd'hui, on va consacrer cette heure à Chomsky sur deux points. L'un, c'est l'affaire Forisson, pour encore une part des gens que nous rencontrons. Ah oui, mais Chomsky, il a soutenu Forisson. Donc on va entendre l'extrait de ce film, du premier film traitant de cet aspect des choses, de cette affaire. Et puis en deuxième partie, Chomsky et le capitalisme. Grande affaire, qu'est-ce que le capitalisme? Aujourd'hui, on se pose toujours des questions et on aura la réponse de Noam Chomsky. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
C'est Germaine, retraitée, qui demande de la transparence sur le mariage, resté jusqu'ici très secret entre la MGEN, c'est-à-dire la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et la banque Natixis, qui en 2008 a perdu 4,5 milliards d'euros et sponsorise depuis peu le club de rugby du Racing. Premier avatar de cette curieuse alliance. Depuis le 1er avril 2009, les aides ménagères ne parviennent plus directement et tout simplement par leur mutuelle, mais sous forme de chèque signé Natixis. Mais l'aide horaire est passée de 8,31 euros à 4 euros. Deuxième avatar. Chaque bénéficiaire doit faire lui-même le calcul de sa prestation. Troisième avatar, de nombreux employés de la MGEN, 4 au moins par département, ont été licenciés. Pourquoi ces bouleversements depuis l'intervention de la banque Natixis, alors qu'il avait été promis des changements bénéfiques? Heureusement que tous les vieux artisans, les vieux cultivateurs, les vieux enseignants accablés par le grand âge trouvent un secours auprès des ASAD, c'est-à-dire les associations de bénévoles des communes rurales. Et ça soutient un peu leur morale. Mais pourquoi Natixis est intervenu dans l'œuvre de la MGEN et peut-être d'autres mutuelles, qui le sait? Qui pourrait nous le dire? Merci.
Oui, bonjour Daniel et salut les auditeurs de là-bas si j'y suis. J'écoute tous les jours ton émission, Daniel, et bon, je voudrais y ajouter un peu mon grain de sel concernant effectivement comment on traite nos personnes âgées. Pour moi, je trouve que le premier scandale dans notre civilisation, c'est que nous en sommes à considérer que lorsqu'une personne est âgée, elle doit absolument rentrer en établissement. On a oublié que nous devons à nos parents ce que nous devons aussi à nos enfants. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de SPA pour les vieux. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'établissement à but lucratif. Ça, c'est un scandale dans notre société. Et que des investisseurs qui se font du fric sur la misère des gens, c'est impossible à accepter. On ne devrait avoir que des établissements à but non lucratif, publics ou associatifs. Troisième, je voudrais apporter quand même un petit peu mon soutien aux directeurs et aux directrices, donc des établissements aux personnes âgées, qui se battent tous les jours, avec quelquefois un budget restreint, pour que les gens qui y vivent, c'est-à-dire qu'on appelle les résidents, puissent effectivement avoir quand même une vie la plus agréable possible. Moi, ma compagne, elle travaille dans un établissement, elle dirige un établissement de plus de 60 résidents, et tous les jours, elle mène le combat pour le respect de la citoyenneté et de la dignité des résidents. Ça va des soins jusqu'à l'assiette. Et elle n'est pas la seule comme ça, et je crois qu'il faut quand même le dire, parce que tous les directeurs ni directrices ne sont pas à la recherche, effectivement, de carrière, en démontrant, effectivement, qu'on peut... gérer des établissements et puis réussir tout ça donc en faisant un maximum de bénéfices. Ça, c'est scandaleux, faire du profit sur la misère des gens. Voilà un petit peu donc ce que je voulais dire, et puis ben continue dans tes émissions, et donc à demain pour la prochaine le prochaine émission de Là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour toute l'équipe et Daniel, ici Corinne du Repère de Caen, dans le Calvados. Je vous informe qu'aujourd'hui, donc le jeudi 19 novembre à 20h30, a lieu notre repère mensuel au News, donc au 15 boulevard Leroy. Le thème qui a été choisi, c'est vivre avec la violence principalement faite aux femmes, qui sera aussi concernée, faite aux hommes. On démarrera par une projection d'un court-métrage de 24 minutes qui s'appelle Sous la peur, et qui vient du Québec, réalisé par Lise Bonenfant. Et le débat va être ensuite animé par des bénévoles du mouvement français du planning familial de Caen. Donc, soyez aussi nombreux que vous le souhaitez. Les places sont limitées, mais comme d'habitude, on va se serrer et débattre tous ensemble.
Moi, je voudrais pousser un coup de gueule, parce qu'aujourd'hui, les salariés du grand laboratoire GSK, qui a vendu plus de 330 millions de vaccins grippe, dont 50 millions en France, sont en grève devant leur siège social. Et ce grand laboratoire qui a encore une croissance à deux chiffres va encore licencier plus de 600 personnes en France. C'est le quatrième plan social en 2 ans. Et qui va en parler? Parce qu'apparemment, la direction a réussi à museler la plupart des médias. C'est vraiment totalement écœurant. Voilà, merci Daniel pour ton émission. Au revoir.
Oui, bonjour Dany, bonjour à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Alors c'est Khaled Benembarek de Besançon pour la Tunisie et Taufik Bembrik en l'occurrence. Je voulais te dire donc que Taufik doit être à l'instant où je te parle, c'est-à-dire vers 13h20, heure de Paris, en train d'être jugé devant un type qui se présente pour magistrat à Tunis. S'il le libère, c'est que donc Zine Ben Ali aura compris. Sinon, c'est que le comité international pour la défense de Taufik Bembrik, qui s'est mis en place à Paris, aura beaucoup de pain sur la planche. Et nous comptons sur toi, France Inter et tous les médias, pour déployer le bouclier de défense de Taufik Bembrik du temps de sa grève de la faim d'il y a une dizaine d'années. Allez, bonne journée à tous. Ben Ali sera vaincu. Au revoir, à bientôt.
Et oui, on est en route vers Boston, Massachusetts, pour rencontrer Noam Chomsky, le grand intellectuel Noam Chomsky. Voilà des années et des années que nous faisons des reportages pour la radio à travers le monde entier, à la rencontre de gens ordinaires qui se battent et qui se débattent dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous rencontrons plutôt les jetables que les notables, plutôt les routiers que les rentiers, et plutôt l'homme de la rue que le grand intellectuel. Pourtant, C'est vrai, ces gens-là veulent notre bien, ils pensent pour nous, ils nous guident, ils nous protègent, ils nous apprennent qu'il est inutile de se révolter, car la révolte, ça vous mène au goulag. Ils nous le répètent, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Il n'y a pas d'alternative. Profitez de la vie, ne vous mêlez pas de politique. Chacun chez soi, chacun pour soi, roulez petit bolide et dormez petit pigeon. Endormir le peuple, tenir le peuple à distance, depuis longtemps, c'est le rôle des curés, des intellectuels, des médias et de tout un appareil au service du pouvoir économique et politique. Mais les chiens de garde ne sont pas toujours aussi dociles. Il arrive que certains mordent la main qui les nourrit et tournent leur croc contre le pouvoir et prennent le maquis en volant les clés. Ils tiennent plus ou moins longtemps, les clés sont plus ou moins utiles, mais ils sont indispensables. Sans eux, le ciel noircit immédiatement.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie. J'y suis avec Guy Van Til, Chomsky et compagnie, Chomsky et le pouvoir.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est à la rencontre de ces insubordonnés que nous partons pour Montréal, Toronto, Cape Cod, Bruxelles, Paris et d'abord à Boston, le prestigieux Noam Chomsky. Il y a deux Noam Chomsky. Il y a le scientifique, le linguiste qui a révolutionné la linguistique, le Einstein de la linguistique, et le Chomsky activiste, engagé et enragé depuis la guerre du Vietnam, l'intellectuel le plus populaire et le plus cité au monde, peut-être le plus grand intellectuel vivant. Pour rencontrer Chomsky, il faut beaucoup de patience, il faut avoir la vie devant soi. Son emploi du temps est établi heure par heure, 8 mois, 1 an à l'avance.
Ok, where do you want me?
À 80 ans, il travaille une centaine d'heures par semaine, entre livres, articles, interventions publiques et échanges avec des centaines de correspondants à travers le monde. Pas facile de classer Chomsky dans un courant intellectuel comme nous le faisons en France. Il se situe quelque part entre Bertrand Russell, scientifique, philosophe, militant libertaire, et le sous-commandant Marcos qui, en 1994 au Mexique, dans le Chiapas, lançait la révolution zapatiste.
Thank you.
petite escadrille acharnée de penseurs médiatiques français. Chomsky est un négationniste, Chomsky a soutenu Pol Pot, Chomsky c'est la théorie du complot, Chomsky est un anti-américain, donc un antisémite, et d'ailleurs il est antisioniste. Pas besoin de preuves, pas besoin de lire, l'indignation suffit, c'est une évidence pour de grands philosophes français comme Bernard-Henri Lévy ou Philippe Val, c'est clair, Chomsky a les pieds fourchus. La preuve, l'affaire Forisson. Chomsky a écrit la préface d'un livre de Forisson. Et même si les explications mille fois données depuis 30 ans ont fini par faire comprendre et oublier cette affaire, la calomnie et le malentendu persistent encore. Il faut rappeler une différence importante entre les États-Unis et la France, une différence culturelle fondamentale, c'est la question de la liberté d'expression. Aux États-Unis, la liberté d'expression est totale, elle figure dans le premier amendement de la Constitution et c'est un acquis démocratique totalement intériorisé. Et qui se résume à la phrase attribuée à Voltaire, « Je déteste ce que vous écrivez, mais je me tuerai pour que vous puissiez l'exprimer. » Et Noam Chomsky ajoute, la liberté d'expression n'a de sens que si elle s'applique aux opinions qui vous répugnent. À la fin des années 70, Robert Forisson, professeur de littérature à l'Université de Lyon, publie un texte affirmant que les chambres à gaz et le génocide des Juifs n'ont jamais existé. Ces élucubrations rencontrent peu d'écho jusqu'à ce que le quotidien Le Monde, le 28 décembre 1978, prenne la responsabilité de publier une tribune où Robert Forisson expose sa thèse. Tollé général contre le négationniste Forisson et Pierre Vidal-Naquet, à la fois historien et homme d'engagement, un peu à la façon de Chomsky, comparera Forisson à un Eichmann de papier.
Dès 1978, n'est-ce pas, Forisson a été publié dans Le Monde. C'est à ce moment-là que l'on cesse d'être dans cette situation qui est encore le cas aux États-Unis, où vous avez bien sûr des révisionnistes qui ont beaucoup d'argent, mais vous avez aussi une secte des adorateurs de Satan.
Pierre Vidal-Naquet, 18 octobre 1987. Apostrophe.
Eh bien, l'archevêque de Boston n'entre pas en bagarre parce qu'il y a une secte d'adorateurs de Satan. Le problème qui fait que je suis entré dans la bataille, effectivement, avec quelques autres, Nadine Fresco, Georges Vellers, c'est le fait que ces gens ont eu accès à certains médias, pas aux vôtres d'ailleurs, mais ils ont eu accès à certains médias. Et ça m'a paru extrêmement dangereux.
Robert Forisson est suspendu de ses fonctions, poursuivi devant la justice et se dit menacé. Une pétition alors circule pour la liberté de parole et d'expression de Robert Forisson. Le texte ne dit rien sur le contenu et les idées de Forisson. La pétition reçoit 500 signatures, dont celle de Chomsky. Il signe comme il le fait toujours, dit-il, dès qu'il faut défendre le principe de la liberté d'expression. Il signe pour ce principe et non pas, il le répète, pour le contenu du texte, dont il ne prend d'ailleurs que très vaguement connaissance. Pour Chomsky l'Américain, tout ça est évident. Il le répète, si la liberté d'expression se limite aux idées qui vous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression.
Ou tu défends la liberté d'expression pour des opinions que tu détestes, ou tu ne la défends pas du tout. Même Hitler et Staline étaient ravis de défendre la liberté d'expression pour des idées qui leur convenaient.
Those are the crucial issues.
Voilà les enjeux essentiels.
And in order to
et pour pouvoir éluder ce débat, il y a toujours le flot de mensonges habituel.
Devant l'incompréhension, Chomsky écrit un texte court où il répète que défendre le droit de quelqu'un à s'exprimer ne revient nullement à partager ses opinions. Il précise qu'il n'a pas lu Forisson tout en indiquant cependant que d'après le peu qu'il en sait, Forisson est une sorte de libéral relativement apolitique. Il adresse cette lettre à un dénommé Serge Thion, un chercheur qui s'intéresse à cette affaire. Serge Thion utilise le texte de Chomsky en avis du livre que publie Forisson. Et depuis, Chomsky ne cesse de répéter qu'il n'avait nullement l'intention de voir publier ce texte à cet endroit et qu'il a cherché, mais trop tard, à l'empêcher de paraître. Il considère que c'est là une erreur, mais rien à faire. Jusqu'au bout, Pierre Vidal-Naquet reproche à Noam Chomsky de n'avoir pas cherché à savoir si ce que Forisson écrit est vrai ou faux. alors même que Chomsky ne veut pas entrer sur ce terrain-là. Le fait d'en discuter est ridicule, répète Chomsky. Parler avec des négationnistes et perdre son temps. Entrer dans le jeu des négationnistes, c'est déjà les reconnaître. Les diaboliser, c'est leur donner de l'importance. Encore une fois, Chomsky défend la liberté d'expression et non pas la chose exprimée.
Les États-Unis d'Amérique défendent la liberté d'expression dans une mesure qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde. Ça ne remonte pas très loin dans l'histoire d'ailleurs, c'est assez récent comme phénomène. C'est vraiment depuis les années 60 qu'il y a ça. Dans les années 60 que la Cour suprême a dit qu'il fallait garantir une liberté d'expression très élevée, qui était vraiment une continuité des Lumières. En France, il y a très peu de soucis de cette liberté d'expression, en tout cas.
And the same is true.
C'est la même chose en Grande-Bretagne, où il y a vraiment des attaques très, très importantes contre la liberté d'expression. Dans le cas que vous mentionnez, il y a vraiment un débat, un enjeu très, très important que Vidal-Naquet a toujours contourné, évité.
La question,
c'est est-ce que l'État a le droit de déterminer quelle est la vérité historique et de punir tous ceux qui contreviennent à cette vérité officielle. Ça, c'est une doctrine caractérisée du stalinisme. Les intellectuels français n'aiment pas admettre qu'ils soutiennent cette doctrine. Et c'est vraiment ça l'enjeu dans le cas Faurisson. Il a été poursuivi en justice pour falsification de l'histoire sur la question des chambres à gaz. Il a été condamné pour justement avoir falsifié des documents et surtout avoir permis à des gens de réutiliser son discours dans des contextes terribles.
En France, patrie des Lumières et de Voltaire, pas évident d'admettre la radicalité de Chomsky sur la liberté d'expression. Surtout à l'époque où les délires de Faurisson venaient profaner une mémoire plus douloureuse, plus traumatisée qu'elle ne l'était aux États-Unis. Pierre Vidal-Naquet, dont les deux parents furent déportés et exterminés, a dénoncé la rigidité et la désinvolture de Chomsky dans cette affaire. Que Chomsky reconnaisse qu'il s'est trompé, dit Pierre Vidal-Naquet. Mais à aucun moment, bien entendu, il ne soupçonne de près ou de loin Chomsky de la moindre sympathie pour les délires de Faurisson.
Le plus important, c'est est-ce que l'État doit avoir le droit de déterminer quelle est la vérité historique et de punir ceux qui contreviennent. Si, par exemple, l'État déclare que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que quelqu'un dit « mais non, c'est l'inverse, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre », l'État ne doit pas avoir le droit de le poursuivre.
Soyons clairs, la controverse sur les limites de la liberté d'expression reste un chantier ouvert. Mais accuser Chomsky de négationnisme ou d'antisémitisme relève de l'incompétence et de la mauvaise foi. Et d'ailleurs, finalement, Pierre Vidal-Naquet est d'accord avec Chomsky au moins sur un point essentiel. Ce n'est pas à l'État de dire la vérité historique. Jusqu'au bout, comme nombre d'historiens, Vidal-Naquet s'opposera à la loi Guesso et aux lois mémorielles.
Ce ne sont pas des gens qui tuent, ce sont des gens qui tuent la mémoire et qui utilisent du papier. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis férocement opposé à l'idée d'une loi qui les empêcherait de parler.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un homme de liberté, naturellement. Mais la seconde, c'est aussi parce que, vis-à-vis des jeunes, qui sont exactement la clientèle que recherchent ces gens-là, interdire ces publications, c'est donner aux jeunes l'idée qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne veut pas révéler. Et par conséquent, là encore, c'est leur donner un immense succès.
Mais est-ce que pour autant vous considérez qu'il y a des situations où il peut être légitime de limiter la liberté d'expression ?
I accept the traditional Enlightenment view.
Moi, j'accepte la vision traditionnelle des Lumières,
which in fact
qui en fait a été validée par la Cour suprême américaine.
The position taken was that speech should be free.
Il dit que la liberté de s'exprimer est totale jusqu'au moment où ça amène à des actes criminels.
So for example, if you and I go
imaginons que toi et moi allons dans un magasin, on veut voler, et que tu tiens un pistolet, et que moi je dis « vas-y, tire », voilà, ça c'est une limite à la liberté d'expression. Mais en dehors de ça, il y a vraiment très très peu de marge de manœuvre pour limiter la liberté d'expression. Cette décision a été prise par la Cour suprême dans un dossier qui concernait le Ku Klux Klan.
I mean, the most vicious, brutal, racist murderers.
C'est-à-dire les meurtriers les plus racistes, brutaux et plus sauvages de tout le pays.
And its position was
la conclusion, c'était que ces gens-là ont le droit de parler, même si c'est pour dire des insanités qui n'enclenchent pas des actes criminels.
Now, it's interesting to watch what goes on in France.
Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe en France.
So there's a lot of self-congratulation because was it Charlie Hebdo?
Il y a beaucoup d'autocélébration et d'autosatisfaction parce que le journal Charlie Hebdo a publié des caricatures racistes de musulmans.
Do they also publish Nazi propaganda caricatures of Jews?
Est-ce qu'ils ont fait des caricatures nazies de juifs aussi? Ils ont publié ça?
If they did that, they'd be in jail.
Parce que s'ils avaient fait ça, ils seraient emprisonnés.
So this is all complete fakery and fraud.
C'est vraiment un débat frauduleux.
Moi, je préfère l'excès de caricature à pas de caricature.
Nicolas Sarkozy, 1er mars 2006, Canal+.
Dans le procès sur Charlie Hebdo, moi j'ai produit, j'ai fait une lettre pour les soutenir. Je pense être l'un des hommes politiques les plus caricaturés. Et d'une certaine façon, les plus injuriés. Mais je pense qu'il vaut mieux plus de caricatures que pas assez de caricatures. Parce que quand même, c'est la marque de la démocratie.
Here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation, under the stone-cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Peace in the form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. Cause I am a poem heating hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose. Yeah. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels.
Voilà la très chomskienne Annie DiFranco. Vous venez d'entendre un extrait du film donc Chomsky et compagnie, qui est sorti l'an passé et qui figure donc dans ce double DVD, ce film, puis un nouveau film inédit, Chomsky et le pouvoir, je le disais en commençant, fort des questions qui nous ont été posées lors des débats suivant ce film, ce premier film, nous sommes retournés à Boston voir Chomsky, lui ont posé des questions, mais posées par le public, ce qui donne lieu à, donc à ce deuxième document, Chomsky et le pouvoir. En voici un extrait. Une question qui revient souvent, Chomsky est anarchiste et pourtant, il n'est pas vraiment opposé à l'existence de l'État. Retour sur Chomsky et compagnie, Jean Bricmont à Bruxelles.
Et je pense qu'il est très différent, comme il l'explique dans le film, différent des anarchistes contemporains, parce qu'il n'est pas, il ne considère pas que la lutte contre l'État est nécessairement la priorité aujourd'hui, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, etc. Comme il dit, il faut étendre les barreaux de la cage, c'est-à-dire, il dit, c'est vrai que l'État est une cage, mais en dehors de la cage, il y a les fauves, et les fauves, ce sont des grandes compagnies privées, et d'une certaine façon, la cage nous protège des fauves, et donc il faut se rendre compte que ce qu'il faut, c'est étendre les barreaux de la cage, mais pas retirer la cage tout de suite, sinon on va se faire manger par les fauves.
Il faut le dire, la fameuse métaphore de la cage, empruntée à des travailleurs brésiliens, a suscité beaucoup de commentaires de la part des spectateurs, notamment les spectateurs de sensibilité libertaire. Depuis notre entretien avec Chomsky en avril 2007, la crise est venue bouleverser certitudes et perspectives. Crise économique, crise financière, qui a fait ressurgir un mot qui n'était plus utilisé que par quelques vieux gauchistes attardés, le mot « capitalisme ». Crise du capitalisme, chute du capitalisme, réformer le capitalisme, moraliser le capitalisme. On a entendu ce genre de discours au sommet des États. On a vu les États intervenir pour renflouer le système financier, alors même que l'État, disait-on, s'était effacé devant l'économie financiarisée et la miraculeuse autorégulation du marché.
Dire la vérité aux Français, c'est leur dire d'abord la vérité sur la crise financière.
Nicolas Sarkozy, 25 septembre 2008.
Parce que cette crise, sans équivalent depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d'un monde qui s'était construit sur la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Ce monde avait été porté par un grand rêve de liberté et de prospérité. La génération qui avait vaincu le communisme avait rêvé d'un monde où la démocratie et le marché résoudraient tous les problèmes de l'humanité. Cette génération avait rêvé d'une mondialisation heureuse qui vaincrait la pauvreté et la guerre. Ce rêve a commencé à devenir réalité, des frontières se sont ouvertes, des millions d'hommes ont été arrachés à la misère, mais le rêve s'est brisé sur le retour des fondamentalismes religieux, des nationalismes, des revendications identitaires, le terrorisme, les dumpings, les délocalisations, les dérives de la finance globale, les risques écologiques, l'épuisement annoncé des ressources naturelles, les émeutes de la faim. Au fond, c'est une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir.
Depuis quelques mois, on a vu réapparaître ce mot, capitalisme.
Well, the word capitalism is
le terme même de capitalisme est très obscur.
I mean, is what we have.
D'abord, on peut se demander si le système dans lequel on vit est vraiment capitaliste. En tout cas, pas capitaliste au sens où Marx l'entendait. Nous avons des systèmes économiques qui dépendent très lourdement des secteurs de l'État. L'innovation, le développement, et ainsi de suite. Tout ce que nous utilisons est censé être l'application même du capitalisme moderne, alors que ça dérive du secteur public. Par exemple, vous êtes venu ici en avion et l'aéronautique est un très bon exemple du capitalisme moderne. Il y a à l'heure actuelle deux grands leaders mondiaux en aéronautique, Airbus et Boeing. Et ils passent leur temps à s'attaquer devant l'Organisation mondiale du commerce pour savoir lequel des deux viole plus de réglementations que l'autre. Airbus est massivement aidé par les subventions publiques européennes, ce qui est déjà une violation majeure de la réglementation. Et Boeing, quand vous êtes à bord d'un Boeing, vous êtes à bord d'un bombardier militaire reconverti à usage civil. Toute la technologie d'un Boeing dérive des technologies militaires, donc de l'État. Voilà un exemple dans un secteur de pointe de l'économie civile qui repose sur deux fabricants et donc sans compétition réelle, et tous les deux sont soutenus par l'État. Prenons l'exemple du développement des nouvelles technologies, qui a bouleversé le monde depuis les années 90. Nous voilà dotés de merveilleux outils de communication, mais d'où vient tout ça? Ça vient d'endroits comme ici, le MIT, 30 ans auparavant. C'est à ça qu'on doit le développement des ordinateurs, d'Internet, des logiciels complexes, ainsi de suite, toujours grâce à l'action de l'État. Alors c'est quoi le capitalisme? Ce qu'on appelle capitalisme, c'est une propriété privée qui est soutenue par le financement de l'État. Quand ces jours-ci, les gens parlent de crise du capitalisme, en fait, ils parlent d'un cas très particulier. Celui de la crise d'un système d'institutions financières. Un modèle qui a été créé dans les années 70 et qui reposait sur le mythe de l'autorégulation des marchés. Et c'est ce modèle qui est en train de s'écrouler aujourd'hui. Si vous regardez l'histoire économique récente, tous les pays qui se sont développés industriellement, l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne ou le Japon, ils se sont tous développés avec l'intervention primordiale de l'État. Les États-Unis, par exemple, ont été le pays le plus protectionniste du monde jusqu'au milieu du XXe siècle et celui qui a connu la plus forte croissance.
Aujourd'hui, General Motors ne peut plus payer ses dettes. Ses pertes atteignent les 82 milliards de dollars.
France 3.
L'entreprise va tout à l'heure déposer le bilan. En fait, c'est un nouveau point de départ avec un plan de sauvetage à la clé.
1er juin 2009.
L'État fédéral détiendra 60% du capital de l'entreprise et deviendra le vrai patron. En échange, l'État versera 30 milliards de dollars d'aide. Il y a quelques semaines, il avait déjà versé 20 milliards. Il faudra restructurer. 11 usines seront fermées, 3 connaîtront le chômage technique. Le dépôt de bilan de General Motors, c'est une part du rêve américain qui se brise. Pendant longtemps, première entreprise automobile au monde, l'une des plus grandes sociétés aux États-Unis, beaucoup d'Américains y restent très attachés.
Et aujourd'hui, c'est bel et bien l'État qui vient au secours de ce système capitaliste en difficulté.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'on décrit cela comme une nouveauté. Et plein de gens s'inquiètent d'un trop grand interventionnisme. Ça n'a rien de nouveau, c'est même la norme. Les avions, les ordinateurs, Internet, tout ça repose sur l'État. Et ceci ne se limite pas au protectionnisme, c'en est qu'une petite part. Il y a toute une série de mesures incitatives, de recherche, de développement qui font que l'État est présent. Et on peut observer cela dans des cas très précis. Prenons l'exemple des ordinateurs, par exemple. Quand je suis arrivé au MIT il y a 50 ans, les ordinateurs faisaient la taille de tous ces bureaux réunis. Ils étaient inutilisables, certainement pas commercialisables. Et en quelques décennies, avec l'aide et l'appui massif de l'État, les ordinateurs sont devenus assez petits pour devenir un bien de consommation rentable. Par exemple, IBM, dans les années 50, était ici, et ils apprenaient grâce au secteur militaire comment passer des cartes poinçonnées aux ordinateurs électroniques. Et dans les années 60, ils en savaient assez pour produire leur propre ordinateur. Mais il était encore trop encombrant pour qu'une entreprise veuille l'acheter. C'est donc le gouvernement qui l'a acheté. Et il a fallu attendre les années 80 pour obtenir un modèle adapté au marché grand public. Et tout cela au bout de 30 ans de recherche, de développement et d'innovation, et avec du financement public. Prenons l'exemple d'Internet. Internet aussi a commencé ici dans les années 60 à peu près. Jusqu'aux années 80, c'était financé et développé par le secteur militaire et utilisable par d'autres. Puis, c'est la Fondation nationale pour les sciences qui l'a récupéré sur des fonds publics. Et ce n'est qu'en 95 environ qu'Internet a été transféré au secteur privé, soit 35 ans plus tard. Et vous pouvez remonter aussi loin que vous le voulez, le système de production de masse qui a tant impressionné dès le milieu du 19e siècle était basé sur la production d'armes à grande échelle. Le plus grand projet économique du milieu du 19e siècle a été le chemin de fer, qui était bien trop important pour un investissement privé. Et c'est donc le secteur militaire, donc l'État, qui l'a mis en place. En revanche, il y a certains pays qui ont appliqué, eux, les lois du marché. Et ce sont ceux qu'on appelle les pays du tiers-monde. On leur a fait avaler de force les lois du marché, et du coup, ils ne se sont pas développés. Quand les pays riches font mal, ils font, eux, immédiatement, appel à l'État. Prenons par exemple Ronald Reagan, qui est considéré comme le grand prêtre de la liberté des marchés. Il a été le président le plus protectionniste de toute l'histoire américaine d'après-guerre. Il a doublé les barrières douanières pour défendre l'industrie américaine face à la concurrence japonaise plus efficace. Et c'est une constante dans toute l'histoire. La Grande-Bretagne, au milieu du 19e siècle, grâce à la solide intervention de l'État, est devenu le pays industriel le plus puissant au monde. Les Britanniques étaient ravis d'avoir le libre marché et tout le monde en est content tant qu'ils mènent en tête. Mais dans les années 20, les Britanniques étaient dépassés par les Japonais. Ils ont donc stoppé le libre marché et bloqué les frontières de l'Empire. Et c'est l'un des facteurs qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qu'on appelle la crise du capitalisme aujourd'hui, c'est juste la fin d'une courte parenthèse où on a essayé d'agir dans la finance, comme pour les pays du tiers-monde. Et bien sûr, ce modèle s'est effondré. Et qu'on fasse aujourd'hui appel à l'État pour renflouer les caisses des entreprises privées, c'est normal.
On ne peut pas compter sur l'État ni sur les représentants de l'État pour réformer le capitalisme ni moraliser le capitalisme.
Ils sont vraiment là pour rafistoler un système financier sur lequel les règles du libre marché ont été appliquées pendant des décennies, avant de mener à son effondrement. Et maintenant, l'État intervient pour reconstruire ce système de façon à ce qu'il puisse survivre grâce à son aide, comme pour les autres secteurs économiques.
J'ai promis que les mêmes causes ne produiraient plus les mêmes effets.
Nicolas Sarkozy.
La France a exigé des changements pour moraliser le capitalisme.
Vœux aux Français, 2009.
Promouvoir l'entrepreneur sur le spéculateur. Sanctionner les excès inacceptables qui vous ont scandalisé à juste titre. Pour redonner à la dimension humaine toute sa place dans l'économie. Nous obtiendrons des résultats.
Come marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill osprey, are brightened by the beauty a sudden sun discloses. And the people hear us singing bread and roses, as we come marching, marching, we battle.
Voilà donc des extraits des deux films que nous sortons en DVD, Chomsky et compagnie, et Chomsky et le pouvoir, un film inédit. Vous pouvez tout savoir en allant sur le site des Mutins de Pangée, les Mutins de Pangée, ou bien sur là-bas.org, là-bas.org. Un nouveau livre vient de sortir, des entretiens entre Jean Bricmont et Noam Chomsky, le Paris de Pascal. aux éditions de Lerne. Merci à tous. Vous avez remarqué les remarquables traductions de notre Give en Goethe-t-il. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont, Koyen Guyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Ici chez TGV, on fait mincir nos prix par tarif aux fusions. Une petite incision sur le côté du prix. Et on aspire.
Stop !
Non ! Encore jusqu'à moins 60%.
Oh, c'est la panne !
Les tarifs TGV Proms n'ont jamais été aussi minces. Profitez de billets à moins 40, moins 50 ou moins 60% jusqu'au 8 décembre. TGV, plus de vie dans votre vie.
Offre soumise à condition, également disponible sur Théos, Lunéa et Intercité.
SNCF.
Amstram. Gramme. Perdu, monsieur Duchamp. Désolé, mais ce n'est pas encore cette année que la recherche pourra s'occuper de votre maladie. Suivant. Amstram, gramme, pique et collégramme.
Toutes les maladies méritent une vraie place. Fondation pour la recherche médicale. Donnez pour que la recherche bénéficie à tous les malades. Appelez le 3620 et dites Fondation.
15 centimes la minute à partir d'un poste fixe.
France Inter, partenaire du numéro spécial climat de Courrier International. Peut-on encore sauver la planète du désastre? Oui, c'est possible, grâce à la Chine, à l'Inde et aux pays du Sud qui se mobilisent. 96 pages d'infos, de reportages et de cartes à lire en ce moment. Retrouvez le numéro spécial climat de Courrier International le 21 novembre à 14h dans CO2 Mon Amour.
16h20 secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Total échappe à un procès, ainsi que son ex-PDG Thierry Desmarais. À l'ouverture de l'audience, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré irrecevable la demande des parties civiles dans l'affaire AZF. Le jugement dans l'explosion de l'usine de Toulouse, qui avait fait 31 morts en 2001, doit être dévoilé dans l'après-midi. À 4 mois des régionales, l'UMP lance une offensive contre la gauche. Elle publie la 4e édition du Livre noir des régions. Rappelons que 20 régions sur 22 en France sont dirigées par les socialistes. Dans ce livre noir, l'UMP dénonce une hausse de la pression fiscale par habitant de 140% en 5 ans. Un scandale fiscal, selon Xavier Bertrand, le patron de l'UMP. Lors d'un point de presse, il a fustigé notamment des dépenses somptuaires de communication. C'est officiel, la Fédération irlandaise de football demande à la FIFA, l'instance internationale du football, de faire rejouer le match d'hier contre la France. Elle dénonce la décision grossièrement incorrecte de l'arbitre sur, je cite, la main volontaire de Thierry Henry. Les réactions continuent d'affluer aujourd'hui après la qualification des Bleus pour le Mondial. Le principal syndicat de professeurs d'éducation physique monte par exemple au créneau. L'équipe de France ira donc en Afrique du Sud sur la base d'une tricherie indiscutable, révélatrice des dérives qui touchent le football aujourd'hui, dénonce le SNEP FSU dans un communiqué. Autre pays qualifié, vous le savez, l'Algérie, une victoire qui a été largement fêtée dans de nombreuses villes de France, la nuit dernière, beaucoup plus d'ailleurs que celle des Bleus, mais qui a donné lieu à de nombreux incidents, incendies de voitures, feux de poubelles, vitrines brisées. La police a interpellé 140 personnes selon un tout dernier bilan. Le débat au Parlement sur l'euthanasie tourne court. Les députés du groupe socialiste mécontents ont quitté l'hémicycle cet après-midi après l'intervention de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, qui a demandé au nom du gouvernement la réserve du vote des articles et du texte proposé par le PS. Une fois de plus, le gouvernement méprise l'opposition, a dénoncé Jean-Marc Ayrault, le patron des députés socialistes. Un détenu de la prison de Neuvic-sur-l'Île en Dordogne a été retrouvé mort ce matin dans sa cellule. On ne connaît pas les causes de son décès. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans, libérable en 2013. Un nouveau revers pour Éric Besson. La Commission nationale consultative des droits de l'homme appelle le gouvernement à réformer par la loi et sans ambiguïté ce que les associations ont appelé le délit de solidarité, délit qui contrevient au droit européen selon les magistrats. La mort de notre consoeur Chris, l'une des grandes voix, vous le savez, de France Inter, elle a succombé à une longue maladie. Jean-Luc Hesse, président de Radio France, a salué tout à l'heure sur notre antenne la grande tendresse et la générosité de Chris. C'est quelqu'un qui avait une empathie formidable avec tous les gens, a-t-il rappelé. Nos pensées affectueuses vont à ses proches et à sa famille.
fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, vendredi à 11h, Stéphane Bern sera en direct de l'Opéra de Monte-Carlo avec le prince souverain Albert II, la princesse de Hanovre et Jean-Christophe Maillot, directeur artistique des ballets de Monte-Carlo.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter.
France Inter présente Rapt, un film de Lucas Bellevaux avec Yvan Attal et Anne Consigny, actuellement au cinéma. Stanislas Graff, un grand patron, est enlevé contre rançon. Les médias dévoilent les sommes qu'il jouait, ses maîtresses. Sa femme doit faire face.
On va payer.
Sa libération sera plus difficile que sa captivité.
Qui m'a demandé si j'avais eu peur?
Retrouvez Rapt dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Il est 16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Laudéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Eh oui, nous n'avons pas perdu hier, mais enfin, nous ne sommes pas si fiers que cela. Je parle de football, bien sûr. La main, tout le monde l'a vu. Et donc, c'est vrai que c'est une chose un peu pénible. Mais ce qui est très beau, c'est l'attitude des Irlandais, des supporters qui sont restés tout à fait fair-play, tranquilles, élégants et même un peu déçus. Ils n'ont pas foutu la pagaille, saboté tout, comme certains autres qui commencent un peu à exagérer à notre goût, en général, je crois. Eh bien, pour saluer les Irlandais que nous aimons tant vraiment, et on est vraiment désolé pour eux. Voici un merveilleux flûtiste, James Galway, qui est né à Belfast et qui joue de Rodrigo une fantaisie pour un gentilhomme, ce que sont restés nos supporters irlandais, les petits hommes verts, comme on le dit avec affection. C'est une transcription pour la flûte effectuée par James Galway lui-même. Danse des haches, ben justement les haches n'ont pas été sorties hier soir. Joaquin Rodrigo, fantaisie pour un gentilhomme, arrangé pour flûte et orchestre par James Galway, qui jouait lui-même la partie de flûte avec le Philharmonie Orchestra dirigé par Eduardo Mata. Voilà un petit coucou à nos amis irlandais, à juste titre déçus hier soir. Et évidemment, Galway a d'autres qualités que d'être irlandais. C'est un merveilleux flûtiste. Il joue aussi du flageolet, des petites flûtes diverses. Il sait amuser les gens les plus simples quand ça le prend. Quelquefois, il sait jouer même deux flûtes à la fois. Il met les deux flûtes dans la bouche et il arrive. Pas la flûte traversée, s'éclaircir, bien sûr, les flux de droite. Nouvelle, bonne nouvelle quand même, avec Alexandre Tarot, le merveilleux pianiste, qui va nous rendre visite tout à l'heure, à 16h30. Et puis, ce disque qui nous accompagne, Jean-Sébastien Bach, concerto brandebourgeois, par The English Baroque Soloist, dirigé par John Elliott Gardiner. On va en entendre deux passages, mais avant de vous proposer un extrait du troisième concerto brandebourgeois, qui est écrit pour les cordes, puisque je rappelle que c'est une sorte d'expérimentation que le grand Jean-Sébastien a produite là, en essayant toutes sortes de formes orchestrales ou quelquefois plus réduites. Donc avant de lancer le disque, comme on dit, l'Allegro, premier mouvement, je vous signale qu'il y a des coffrets, parce que c'est un double CD à gagner si vous appelez, si vous avez la chance, c'est toujours pareil, il n'y a pas une question de mérite là-dedans, hein, sauf de, peut-être celui de l'obstination. Le numéro de France Inter, 01 45 24 7000, vous connaissez par cœur, je suis sûr que vous l'avez déjà fait avant même que j'ai commencé à le dire. Et donc voici, concerto en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, concerto brandebourgeois bien sûr.